La forêt, par Pauline Pucciano. Le chemin était difficile, comme si les pas qu'il avait foulés récemment n'étaient pas humains. Il avait des détours brusques et illogiques, et ne semblait suivre à travers ses innombrables revers aucune direction particulière. Le colonel et le soldat s'y étaient engagés sans vraiment se demander où il allait les mener. Et cette question, si vaine et hors de propos alors qu'il devait fuir, devenait, au fur et à mesure que le danger s'évanouissait et que s'épaississaient au-dessus de leur tête les bizarres constructions végétales, de plus en plus cruciales. Le soldat, surtout, ne s'en posait aucune autre, et la joie qu'il avait eue de ne pas mourir, de trouver une issue aussi providentielle, avait capitulé devant l'atmosphère opaque des arbres séculaires, de ce sentier erratique, de cette forêt dont il ignorait le nom, la profondeur et l'emplacement. « Mon colonel ?» Le colonel ne fut pas surpris par la voix du soldat, bien que leur marche fastidieuse fût pleine de silence depuis quelques heures. « Oui, soldat, vous devez connaître cette forêt. » Le colonel eut un sourire que l'autre ne vit pas. « Pourquoi ? Vous ne la connaissez pas, vous ?» Le soldat hésita un instant. « Si, si. Savez-vous quelle heure il est ?» Le soldat regarda sa montre, dont le verre étoilé ne recouvrait plus qu'une série de chiffres inutiles et deux aiguilles arrêtées. « Ma montre a dû se casser pendant le combat, mon colonel. »«
Certainement. »
Le soldat songea qu'il aurait préféré fuir avec un sans-grade, qui aurait eu la langue bien pendue et de l'eau-de-vie dans sa gourde. Il regarda furtivement le colonel qui fit semblant de ne pas le remarquer. Comme toujours, et c'est pourquoi en général il évitait de regarder ce visage, les traits du colonel lui firent une impression bizarre. Peut-être finalement se sentait-il plus en sûreté aux côtés d'un homme pourvu d'un tel profil.
« Que pensez-vous du chemin, soldat ?»«
Pour tout vous dire, mon colonel, j'ai l'impression que nous tournons en rond. »«
Nous ne sommes pourtant pas repassés une seule fois par le même endroit. »«
Je vous crois, mon colonel.
On dit toujours que vous avez un sacré sens de l'orientation. » Le colonel sourit vaguement puis s'immobilisa.
« Je suis fatigué, » dit-il. « Arrêtons-nous. »
Il trouva à quelques pas une pierre plate sur laquelle il s'assit. Le soldat s'assit par terre sur le sol sec et terreux. Il se trouva un peu ridicule d'être ici, dans cette forêt, avec le colonel, sans avoir rien à faire. Le colonel était en train de l'observer.
« Vous avez la tête de quelqu'un qui aimerait se donner une contenance, » dit-il.
Le soldat leva les yeux.
« Occupez-vous de faire un feu, »
poursuivit le colonel. « Vous avez froid ?»«
Non. »
Le soldat hésita.
« Vous pensez à la nuit ?
C'est elle qui pense à nous. » Le soldat leva la tête. Il était difficile de savoir quelle était la qualité de la lumière au dehors. La clarté qui parvenait jusqu'à eux était filtrée de verre, assombrie, et pleuvait en rayons inégaux et espacés. Le soldat hocha la tête et se mit à la tâche. Il n'y avait pas beaucoup de branches mortes et de bois secs autour de lui. Et tandis que le jour fanait, il fut contraint à s'éloigner du colonel. Une sourde et inhabituelle inquiétude le tenait en alerte, le rendait sensible, comme il ne l'avait jamais été, à tous les détails infimes et innombrables qui l'entouraient. Il avait l'impression que la forêt, à travers tous ces éléments indéchiffrables, essayait d'exprimer quelque chose. C'est avec des frissons, dont il ne put s'empêcher d'avoir honte, qu'il revint auprès du colonel. Ce dernier, debout au milieu du chemin, regardait vers l'impénétrable épaisseur d'arbres qui avait pris, dans le crépuscule, une dimension étrange. « Ça suffira, mon colonel ?» Le colonel tressaillit légèrement et se tourna vers le soldat chargé de branchages, surpris d'éprouver cet indicible soulagement, ce plaisir animal, de voir s'approcher un être de sa propre espèce.
« Je l'espère. »
Le soldat installa le bois mort et fouilla ses poches à plusieurs reprises avant d'en extirper une boîte d'allumettes. Lorsque le feu commença à prendre, ils ressentirent tous deux un plaisir aigu et se sourirent. La couleur chaude et profonde des flammes les délivrait des ténèbres vertes qui les cernaient comme une mer. Le crépitement recouvrit un moment les bruissements à peine audibles qui traversaient le silence. « Ce n'est pas la première fois que je dors à la belle étoile, » commença le soldat,
« ni même en pleine forêt. Mais je dois avouer que je ne suis pas tranquille, mon colonel. »
« Vous avez peur de cette forêt alors que vous ne craignez pas le feu de la mitraille ?» observa le colonel.
Le soldat se sentit décontenancé. Il n'était pas habitué à ce genre de comparaison.
« Ce n'est pas la même chose, » dit-il.
« Pourtant, vous ne risquez pas de mourir. »
Le soldat pensa la mort, virilement, puis il pensa ce qu'il n'osait imaginer dans les entrailles de la forêt.
« C'est-à-dire qu'ici, je ne me sens pas à l'aise, » conclut-il.
« Les champs de bataille, c'est familier. On sait pourquoi on y est et ce qui vous attend. »
Le colonel eut un sourire bienveillant.
« Moi, je ne l'ai jamais su. »
Le soldat parut déçu.
« Vous n'avez pas peur, vous, ici ?»«
J'éprouve plutôt comme une sorte de vertige. Vous savez, quand on regarde en bas et qu'on ne sait pas si on ne va pas se jeter pour voir ce que ça fait. »
Le soldat fronça les sourcils.
« Je n'ai jamais dû avoir le vertige. » « On reste fasciné par une chose qu'on ne comprend pas. »«
Vous êtes bien courageux pour vous sentir fasciné par cette satanée forêt, » dit le soldat en regardant tout autour de lui.
Le colonel le considéra un instant, et le soldat, à travers la lumière dansante, ne parvint pas à saisir l'expression de son regard.
« Courageux ?» répéta le colonel. « Si je vous disais que j'ai peur de la mort, et que je ne hais rien tant que les champs de bataille. »
Le soldat avala sa salive, tout sauta, et se demanda comment il était possible qu'un officier supérieur dise cela à un sans-grade.
« Vous plaisantez, mon colonel !»
Le colonel eut un petit rire affecté, un rire raffiné et ténu d'intellectuel.
« Pourquoi êtes-vous dans l'armée, soldat ?»«
Eh bien, je ne sais pas.
Ça m'avait bien plu quand j'ai fait mon service, et puis comme je n'ai pour ainsi dire pas de famille. »
Le colonel était encore jeune, peut-être la quarantaine. Le soldat le regarda pour la première fois, sans penser qu'il était son supérieur et se sentit en droit de lui retourner la question.
« Et vous, mon colonel, pourquoi êtes-vous dans l'armée ?
Cela vous intéresse vraiment ?»«
Sûr, mon colonel.
Je ne comprends guère qu'on arrive à votre rang et qu'on ait peur des balles. »
Le colonel eut un sourire presque triste.
« Vous trouvez que je suis lâche ?»«
J'ai toujours entendu dire que vous accompagniez vos hommes dans les combats. »
« C'est vrai, je l'ai toujours fait. »«
Alors on ne peut pas vous traiter de lâche. »«
Devant l'ennemi, non, mais devant la mort. »«
Vous savez, j'étais un jeune homme presque efféminé. »
Le colonel était parti pour parler sérieusement, mais le soldat éclata d'un rire gras.
« Vous, mon colonel !»« J'avais tendance à préférer la musique à la bière et les livres aux filles. »
Continua-t-il.
« J'avais une terreur obsédante. Je ne voulais pas mourir. »
Le soldat avait toujours un sourire de condescendance sur les lèvres. Il pensait que le jeune homme qu'il avait été lui aurait fait honte au jeune homme qu'avait été le colonel.
« Alors je me suis forcé, » poursuivit le colonel. « J'ai voulu côtoyer la mort de près, m'y exposer quotidiennement. »
Il y eut un silence assez long pendant lequel la forêt, que leur conversation avait chassée, revint dans leur esprit.
« Je ne me suis jamais blindé, » reprit le colonel.
J'ai supporté l'armée, son univers d'homme fort. J'ai gâché ma jeunesse et je n'y ai rien gagné. »
Le soldat ne l'écoutait plus. Le brusque sentiment qu'un monde végétal obscur s'étendait autour d'eux à perte de vue l'avait replongé dans son malaise indominable.
« Bonne nuit, soldat, »
dit le colonel avec une douceur ironique.
« Dormez bien. »
Il s'était étendu en chien de fusil sur la pierre plate. Les yeux fermés, le corps immobile, il donnait maintenant l'illusion du sommeil, et le soldat savait qu'il ne fallait pas espérer qu'il fasse un seul mouvement avant l'aube. Dépité, il tenta de s'allonger par terre, mais il lui semblait alors, dès qu'il fermait les yeux, que les arbres se penchaient sur lui et venaient caresser son visage avant de l'étouffer. Après avoir fait quelques pas, il décida de s'asseoir contre un tronc, et chassa de sa conscience la faim qui commençait à être douloureuse. Le sommeil le prit brutalement comme un malaise. Dans la nuit, le soldat rêva de choses insupportables, de chutes libres, de frôlements invisibles, de solitude. Il se réveilla avant l'aube, couvert d'une mauvaise sueur, grelottant et hagard. Tout singulier qu'il fût, le rêve du colonel ne fut pas un cauchemar. Ce fut un de ces songes trop précis et trop réels qui vous laissent à demi-fou d'angoisse ou d'émerveillement. La scène immobile se tenait dans une clairière. La clairière est assez vaste, à peu près circulaire. Et ce qu'elle a de surprenant est ce que l'on voit lorsqu'on lève la tête. Les arbres et les branches sont disposés, contre toute vraisemblance,
comme les arceaux d'une cathédrale, et la voûte qui s'élève au-dessus de la clairière, immense et symétrique, semble l'œuvre impossible de quelque délirant architecte végétal. Une trouée de lumière, vaste et semblable à un vitrail, forme, en plus du diffus rayonnement vert, l'unique source de clarté. Le large rayon descend obliquement vers le centre de la clairière, où la forme d'une femme, couleur d'écorce sombre, est étendue. Le colonel s'éveilla en sursaut, incapable de savoir si la vision avait duré un instant ou si elle s'était prolongée toute la nuit. L'aube se levait. Un léger brouillard gris-vert flottait au-dessus du sol. En faisant un mouvement pour se redresser, le colonel sentit au ventre la tenaille d'une crampe. Le soldat était assis contre un tronc, tremblait, et ses yeux brillaient d'un éclat fébrile. « Soldat !» Le soldat tourna la tête. Une grande faiblesse alourdissait ses mouvements. « Vous avez la fièvre ?» dit le colonel en posant sa veste sur la poitrine humide. Le soldat ferma les yeux et avala sa salive avant de les rouvrir.
« Ce n'est pas une fièvre normale, »
articula-t-il.
« C'est la forêt. »
Ils demeurèrent une heure désemparés, l'un par sa faiblesse terrassante, l'autre par son impuissance. Puis la fièvre du soldat tomba d'un seul coup, comme par miracle, et la sensation de faim disparut. C'était comme s'il y avait une faille entre deux instants, comme si l'insaisissable continuité de la vie et du temps s'était brisée. Une sorte de conscience supérieure s'était allumée en eux, tandis que s'engourdissait celle qu'ils avaient de leur corps. « Vous pouvez marcher ?» demanda le colonel d'une voix lointaine.
« Il le faudra bien. »
Leur marche ralentie suivit les déniblations étranges de la forêt. Le chemin qui jusqu'ici leur avait épargné le souci de la direction commença à se ramifier et devint plus étroit. Ils allaient maintenant à travers un dédale de sentiers. Parfois les arbres semblaient plus clairsemés. Une végétation plus basse, moins étouffante, leur donnait de loin en loin l'espoir d'atteindre une orée. Mais les heures longues et hypnotisantes passaient sans que rien ne survînt. L'angoisse du soldat ne le quittait plus. Elle restait collée à lui comme un vêtement mouillé, le torturait de nausées, de frissons, d'étouffements. Il avait peur de la nuit et des fièvres qu'elle recelait. Il n'attendait à travers l'acharnement de leur marche que l'ivresse de l'épuisement. Le colonel, lui, entrait peu à peu dans une sorte de rêve. Il ne se rendit pas compte qu'une seconde nuit tombait, identique à la première. Ce fut le soldat qui le força à cesser de marcher. Il était envahi par une autre présence, envoûtante et lourde, qui le guidait obscurément, et qui obstruait dans son esprit tout ce qui n'était pas elle. Tandis que le soldat se laissait gagner doucement par son mal, le colonel rêva d'un étang bordé de saules, dans lequel il regardait, mais sans y trouver son image. La surface de l'eau est lisse comme un miroir, sombre comme le métal. Il ne regarde pas les saules, mais voit l'étang, la longueur de leurs branches maladives, la pâleur de leurs feuilles déjà presque mortes. Soudain, l'étang se ride, secoué par une tempête qui ne semble qu'intérieure, et lorsqu'il s'apaise, le reflet est là. Non pas le sien, mais celui de cette femme qu'il a vue, pétrifiée, couchée dans la clairière. Il regarde longtemps le visage, puis tourne la tête pour la surprendre à ses côtés. Mais la berge est vide, et dans l'étang, c'est son propre reflet maintenant qui le nargue de son air accablé. Le colonel poussa un cri en s'éveillant. Une force nouvelle avait pénétré son corps. Le jour était déjà bien avancé. Il essaya de reconnaître les lieux. Le soldat étendu semblait encore dormir. Il se souvint du matin de la veille, du brouillard gris-vert, de la fièvre du soldat. En dehors de cela, sa mémoire était vide. La réminiscence vague d'un état de transe, d'une marche infinie, d'une errance. Il se leva et faillit marcher sur un amoncellement bizarre de champignons et de mûres que quelqu'un avait déposé auprès de lui. Il se dirigea machinalement, sans y prêter attention, vers le soldat, et se mit à lui tapoter les joues pour le réveiller. Il était froid. Une terreur enfantine le saisit au contact de la chair morte. Ce fut alors qu'un grand vent se leva. Les arbres, presque renversés, en mêlant leurs branches dans une violente étreinte, animés d'une force anarchique, paraissaient libérer d'un seul coup tout ce que leur immobilité immémoriale avait accumulé au cours des saisons, le vacarme que produisait le froissement effréné des feuilles et les crêpements des troncs s'ajoutait au souffle suraigu de la tempête. Le colonel dut se coucher à terre, agripper tant bien que mal une racine, et fermer les yeux pour éviter les tourbillons terreux qui couraient en tous sens comme des feux follets. Dans l'obscurité des paupières closes, la frayeur atteignait un paroxysme et se mua peu à peu en une joie sauvage, violente. Il se sentait devenir semblable à cette forêt qui l'entourait. Il sentait monter en lui la violence libératrice de la tempête, et il hurla, comme un démon, l'extase étrange que cette fusion lui procurait. Puis le vent commença à tomber. Une pluie douce et uniforme en annonça la fin. Le monde lavé, absous, recouvrait peu à peu l'innocence. Le colonel, lui, recouvrait la raison. Le soldat était mort, probablement de sa fièvre, de la nourriture avait été déposée près de lui. Et puis, il y avait cette forêt affolante, ses rêves, ses tempêtes enfin, son hurlement de jouissance. La solitude l'avait-elle rendu fou? Les arbres exhalaient-ils des vapeurs meurtrières? Était-ce la faim seulement qui le faisait délirer? Il mangea, songeur, inattentif à la douleur de son estomac desséché. Il recouvrit le corps du soldat de pierre et de bois, incertain de ce qu'il fallait faire. Autour, la forêt apaisée était presque bienveillante. Il reprit sa marche, vide et fatigué, dans la torpeur d'une solitude si profonde qu'elle rendait tout irréel. Il prit instinctivement un sentier difficile, à demi noyé dans une eau trouble. Lorsqu'il arriva devant l'étang, il ne fut d'abord pas surpris. Tout y était pourtant identique à son rêve. La courbure des sols, la brillance de l'eau, les feuilles rendues trop lourdes pour les branches. C'est en cherchant son reflet qu'il se souvint du songe. Et il se sentit frissonner lorsqu'apparut le visage énigmatique et improbable de la femme qui ne pouvait exister. Il demeura les yeux rivés au reflet. Le visage n'était pas immobile. Les paupières se fermaient parfois. Les lèvres scellées esquissaient le commencement d'un sourire. Les yeux le regardaient avec une expression changeante de souffrance ou d'espoir. Ce visage était beau, mieux que beau même. Il avait un éclat unique et familier. Il fit un pas dans l'eau et la vision s'évanouit. L'étang et les saules, indissolubles, redevenaient muets. C'était la nuit tombée qu'elle apparut. Silencieuse et légère, recouverte d'une étoffe qui semblait, à la lueur du feu qu'il avait allumé, de la même couleur que ses cheveux châtains. Investie d'une sensualité presque excessive, elle demeurait en même temps distante de la réalité comme si elle n'en faisait pas vraiment partie. « Je ne vous avais pas entendu, » dit lentement le colonel. « On n'entend pas les visions en marche. »« D'où venez-vous ? » demanda-t-il. « De la clairière. » Sa voix était litanique et grave. « Dans celle que j'ai vue en rêve, vous n'étiez qu'une statue. » Vous rêvez encore. Elle se tenait à quelques pas de lui, et son corps blanc ne répandait pas d'ombre. J'ai tué votre ami, dit-elle après un silence. Pourquoi? Il faudrait plutôt me demander pourquoi je ne vous ai pas tué aussi. Je suis heureux d'entendre votre voix, dit-il. Votre visage sur l'eau ne savait pas parler. Vous ne croyiez pas encore en moi tout à l'heure. Vous n'auriez rien pu entendre. Elle s'assit par terre et son mouvement ne fit aucun bruit. « C'est vous qui avez apporté à manger ?»« Je ne voulais pas de votre mort. Vous pouvez peut-être me délivrer. »« Vous délivrer de quoi ? Ne vous énervez pas, » dit-elle d'une voix si faible qu'elle semblait lointaine, « ou je vais disparaître. » Il se leva brusquement. Elle commença à devenir floue. Ses contours se perdaient dans la nuit. « Ne partez pas !» cria-t-il. Il eut le temps de voir ses lèvres articuler des mots qu'il n'entendit pas. Il eut le temps de bondir, de se ruer sur elle, mais il n'étreignit que le vide et le goût de la terre dans sa bouche fut amer. Il chercha le sommeil pour la retrouver en songe, mais le sommeil se refusa, s'approchant et se refusant sans cesse, et il dut accepter l'insomnie.
Il se laissa divaguer, sans cohérence. Il pensa à cette femme absente et omniprésente, à ce fantôme, à cette vision qu'il aimait déjà sans rien comprendre. Le vertige et le désir s'entremêlaient autour de son image, ainsi que, de loin en loin, la peur soudaine qu'elle n'exista pas. Obsédé par ce qui n'était peut-être qu'une illusion, il avait oublié le soldat, la fuite et la guerre. Sa solitude absolue avait gagné sur le monde. Seul, dans la forêt, il n'existait plus que pour cette famille matérielle dont il ressentait à chaque instant l'obscur appel. Le rêve prit le pas sur ses rêveries conscientes. Mais lorsqu'il s'éveilla au matin, il ne se souvint pas des transes de la nuit. Seul demeurait dans son esprit la confuse nécessité de trouver la clairière, de toucher la statue, de lui rendre la vie. Il marcha pendant des jours, ivre de silence, envahi par l'étrange teinte de la lumière, se nourrissant çà et là des fruits inconnus qui s'offraient, dociles à ses yeux. Il lui parut sillonner la forêt en tous sens, de fond en comble, sans que pourtant jamais il n'en aperçût d'issue. À perte de pas, elle s'étendait, immense et verte, déserte et profonde. Il s'habitua au rythme ininterrompu de sa marche, qui le berçait comme un sourd battement de cœur. Aucune vision, aucun rêve ne lui redonna, au long de ses jours et de ses nuits identiques, l'image ni la voix de la femme, qui, il en était certain, l'attendait pourtant au centre d'une clairière. Le souvenir de ses paroles le hantait, et sa curiosité morbide ne se différenciait presque plus d'une passion assoiffée. Sans chercher à comprendre comment sa raison avait pu laisser naître cet amour insensé, sans même se le formuler à lui-même, il la cherchait inlassablement, sans faillir, sans douter qu'il la trouverait enfin. Ce fut au milieu de la journée. Le chemin qu'il suivait ne différait en rien de ceux innombrables qu'il avait suivis jusque-là, mais il y avait en lui une tension nouvelle et grandissante, comme une mélodie éclatante s'acheminant vers son accord final. Chaque pas, chaque visage, le plongeait un peu plus dans l'excitation tourbillonnante du dénouement, et ce fut à l'instant où la tension devint insoutenable qu'il déboucha dans la clairière. Puis ce fut le silence. Le silence de la voûte suffocante, de l'espace soudain vide, de son attente achevée. Il y avait une forme au milieu de la clairière, une forme baignée de lumière. Une statue de femme étendue, mollement repliée sur elle-même, les cheveux éparpillés sur le visage. Il la caressa de la main. Le bois était doux et poli. Il tenta de dégager le visage, mais les cheveux étaient inamovibles. Anéanti, il s'assit près d'elle. Des heures passèrent sur son silence, sur l'immobilité de la statue. Il lui parla alors jusqu'à la nuit, lui dit combien il l'avait espérée, lui raconta son errance et sa folie. Il la menaça de mourir, de la rejoindre dans sa prison d'immobilité. Il toucha chaque parcelle de son corps, et parfois sa main tremblante croyait saisir un frémissement. Il se sentit abandonné, seul pour la première fois dans la nature muette. Les arbres gigantesques lui donnaient le vertige. Lorsqu'il levait la tête, la voûte lui donnait l'envie de pleurer. L'obscurité tomba lentement, pleine de bruits étouffés et de choses invisibles. La nuit, maintenant opaque, cruelle, ressemblait à la mort. Instinctivement, il se rapprocha de la statue et se coucha sur elle. Dans les ténèbres, transi de froid et de désespoir, il sanglota comme un enfant. Lorsque le corps de bois fut mouillé de larmes, alors que sa pensée allait s'éteindre, il sentit sous sa peau une peau frissonnante, des bras qui l'enserraient doucement et une bouche rédemptrice qui embrassait ses yeux. Ainsi s'achève La forêt par Pauline Pucciano.